Bonsoir chers amis et bienvenue dans ce podcast de Culture Sport Club, Top Jingle.
À droite, à gauche, au milieu. Non, pas là, là non plus. T'as perdu. C'est la combine à nanar, être partout et être nulle part. Politique, business et foot, nanar est tellement partout. Qui peut se planter nulle part? Jamais tricard, non jamais tocard. C'est la combine à nanar, d'apporter un Richard. Vendre, acheter, revendre, acheter, avec rien dans les gobelets. C'est ça les billes à nanar, elles sont partout, elles sont nulle part. Émerger, sport fait l'hiver et télé, c'est la combine à nanar, avoir sa trombine dans le canard, c'est l'entreprise à nanar, fabriquer que du nanar, après les piles à nanar, après les pompes à nanar, la Coupe d'Europe à nanar, et bientôt le président nanar.
Eh oui, merci de votre écoute, bienvenue dans ce podcast Culture Sport Club, le CSC pour l'épisode 1. Je suis toujours très très bien accompagné avec le trio de titulaires aujourd'hui avec moi. Vous le connaissez, je ne le présente plus. Salut Seb.
Bonsoir.
Ça va bien?
Ça va, et vous-même?
Très bien. Écoute, quand je te vois, ça va. Oh. Et un nouveau venu avec nous, c'est Greg qui sera là souvent avec nous, j'espère, si ça lui plaît, si ça lui convient. C'est un baptême de feu pour lui.
Ouais, on va voir déjà comment ça se passe.
Salut Greg, ça va?
Oui, oui, ça va très très bien.
Ouais. Tout va bien.
Ravi d'être
là. C'est quoi
un
baptême de feu?
Un baptême de feu, ouais.
Merci bien.
Bon, c'est tard et on a parlé beaucoup avant, donc j'ai plus de salive presque. Ben, heureux de t'accueillir déjà, Greg.
Ben, ravi d'être là.
Voilà, donc tu es ici chez toi, détends-toi, laisse-toi aller, te laisse pas toucher par
pas
ça.
Pas trop se détendre non plus.
On va faire attention.
C'est pour vous après moi.
Chers amis, déjà, je voulais vous remercier parce qu'on a fait un premier podcast, un épisode zéro hein, que vous pouvez écouter. Et là, je peux le dire sur différentes plateformes. On est maintenant sur Deezer, sur Spotify, sur bientôt Apple Podcast, sur Podcast Addict, sur Amazon, sur Audible. Enfin, on est un peu partout et sur la plateforme Anchor, A-N-C-H-O-R. Mais j'ai mis le lien, ce que vous retrouverez sur les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, c'est pas trop développé. Hein, on est sur que Facebook et Instagram, c'est déjà pas mal. Mais j'en ai un peu parlé en off avant. Mais pour ce premier épisode, je tenais à remercier les personnes qui nous ont écoutés parce qu'on a quasiment rempli une salle de classe préparatoire. Quoi. Donc, 22 personnes nous ont écoutés. Donc, c'est assez sympa à vous, sachant que ma mère n'a pas écouté. Ma femme n'a pas écouté et même Seb n'a pas écouté. Honte à toi, shame on you quand même.
J'ai honte.
Mais en tout cas, merci de votre écoute. Le menu de ce soir, on va un peu parler de notre nouvel invité. Il faut qu'il passe sur le grill lui aussi.
Attends, je vais m'absenter deux minutes.
Genre, c'est très intéressant qu'est-ce qu'il va dire. Et ensuite, on va parler d'actualité sportive en mode pêle-mêle comme ça. Et on fera un débat autour d'un sujet particulier, mais que je développerai en fin de podcast. Donc, Greg, que nous accueillons avec nous ce soir. Bonjour Greg, rebonjour Greg.
Rebonjour.
Qui est, alors, pour vous donner une image, alors pour ceux qui le connaissent, je ne vous fais pas d'image, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, regardez Viking dans Ragnar. Voilà les filles, je vous laisse saliver.
Ragnar dans Viking.
Ouais, c'est mieux.
Parce que Viking dans Ragnar, c'est plus convivial.
C'est peut-être...
Mais... T'as pas vu le bon Viking. T'as vu Vikings.
Vikings. C'est vrai. Vikings Brax Mountain, ouais, c'est ça.
On va pas savoir.
C'était Brakmar.
Donc c'est pardon, c'est Brakmar. C'était peut-être Brakmar d'ailleurs. C'était Ragnar dans Viking. Oh putain, ça commence bien.
Les chances que je revienne sont déjà en train de diminuer.
Donc c'est Ragnar dans Viking. Donc voilà, on va faire. Faut qu'on attire aussi la gente féminine à nous écouter.
Ouais, ouais, vachement.
Donc là, je pense que c'est le bon moment.
Low cost, hein, le Ragnar.
Le Ragnar, c'est discount. Quoi.
On fait ce qu'on peut.
Non, c'est bien. Alors, t'es pas assez discount quand même.
Si. Si.
Bon, Greg, je vais te laisser te présenter un petit peu. Alors, Greg, juste parce que je l'ai fait pour les autres. Greg, c'est un gars que je connais. On se connaît tous les deux depuis très très longtemps. Je crois qu'on était en CM1. Ouais. On a habité ensemble pendant longtemps. On a
fait pas 10 ans, c'est sûr. Ouais.
On a fait pas mal de conneries ensemble. Greg, là, c'est le moment où j'envoie, je fais des lipettes un petit peu. Là. Greg, c'est un gars que j'apprécie beaucoup, mais il sait, et c'est quelqu'un qui a un sens de l'humour. Là, il fait le timide, mais c'est un gars qui a un sens de l'humour. ça sera notre Alain Chabat du podcast pour moi. Mais je suis très content qu'il soit là parce que voilà, il a de très bonnes réflexions sur pas mal de sujets. Et voilà, je pense qu'il peut nous apporter aussi sa vision des choses. Voilà, tout à fait. J'étais un peu léché maintenant. maintenant, je te laisse te présenter.
C'était quelque... pas désagréable. du coup, moi, mon rapport au sport, c'est à peu près le même que vous, je pense.
Ouais.
Donc, ça a été principalement que du foot depuis le plus jeune âge. Je crois que j'ai fait qu'un an de pause où je m'étais blessé. Voilà.
Ouais.
Mais sinon, de 7 à 22, on va dire, j'ai pas passé quasiment une saison sans jouer au foot. Et après, bon, la vie m'a un peu éloigné des terrains, on va dire.
Mais ton rapport, c'était. Est-ce que c'était simplement de la passion? Est-ce que c'était. Et ta passion, c'était quoi? C'était t'attendais ça vraiment? C'était
Ouais, j'attendais pas. J'ai une période où j'attendais ça vraiment. Ouais. C'était le fait marquant de la semaine, quoi.
Ouais.
Voilà, c'est surtout quand j'ai commencé à être dans un âge où tu t'en vas un peu au lycée, que t'es moins présent. C'était en même temps, c'était retrouver les amis. Et en même temps, le sport qui me passionnait le plus. Et c'est là où j'ai développé, je pense, dans cette tranche d'âge.
Non, les bafouilles, c'est normal. Hein.
Que j'ai développé mon état d'esprit, esprit d'équipe. Quoi.
Ouais.
Voilà, que je retrouve aussi, que j'en ai fait une valeur dans mon travail, par exemple. Et vraiment, j'ai juste ça qui m'avait bien plu à l'époque aussi, c'est que c'est un peu cliché, hein, mais c'est vrai que sur le terrain, on a une période où on se battait vraiment les uns pour les autres. C'était voilà, la dernière fois que j'ai ressenti ça, c'est dans Viking, justement, quand il a fallu qu'on affronte.
Et c'est peut-être vraiment Ragnar, hein, attention. Mais tu continues toujours à faire du sport.
Ouais, là je continue en loisir, donc du coup le foot. Après l'âge avançant, je me suis mis à la randonnée, un peu comme tous les vieux. Voilà, il faut le dire. Faut pas... Et après, sinon, j'ai un petit penchant pour les sports extrêmes aussi. Mais bon, là par contre, ça demande un peu plus de temps, d'implication. C'est compliqué de vraiment se plonger dans un. Je me suis à un moment donné un peu engagé pour faire du parapente, mais de façon j'étais parti pour en faire régulièrement et tout, mais ça demande trop de temps, clairement trop de temps. Quand t'as une vie de famille, c'est compliqué, mais j'ai toujours ce petit penchant pour les sports extrêmes, saut à l'élastique et là très récemment parachute.
Ouais, tu me l'as dit vite fait tout à l'heure en off là, tu fais un stage en
petite soir. Formation aujourd'hui, et demain je saute tout seul, pas en tandem, mais tout seul.
Alors voilà, ça c'est à proprement parler Greg, parce que ce gars va quand même sauter en parachute demain, donc c'est de la première fois.
Oui.
Voilà, et là, moi, à sa place, j'aurais été un liquide ce soir en fait, mais un gros liquide sur la chaise.
Liquide visqueux ou liquide...
Ah ouais, liquide flasque, mais genre flasque. Et le gars, là, il est en train de vous parler tranquille, est parfaitement serein.
En même temps, toi, t'as pas osé faire le Dumbo à Disney.
C'est vrai que... c'est vrai, il fallait pas le dire, parce que ça me mettait en valeur encore.
Oui, mais quand même.
Ça faisait des points en plus pour que je revienne.
Il y a une petite comparaison
quand
même.
Une compère.
Ouais, parce que vous êtes un peu compère quand même.
C'est les compères. Mais non, mais toi, t'as sauté en parachute aussi. Enfin, je sais pas, la veille, t'étais pas forcément trop tranquille, non? Ok. Bon, peut-être que j'avais consulté alors.
Après, moi, je suis pas aussi fou que lui sur certains trucs extrêmes. Mais après, on parle d'extrême justement.
Ouais, mais voilà, je suis admiratif.
Déjà,
le mec, il a un flingue. Demain, je sortais en parachute.
Les autotamponneuses, déjà, c'est un peu risqué.
Le Jaguar, c'est risqué. Le Jaguar, c'est hyper. La chenille, c'est risqué. En vitesse lente. Donc, voilà. Donc,
forcément.
Bon, très bien, Greg. Écoute, je te laisserai intervenir. Comme tu veux dans ce podcast.
Je l'espère.
Censure.
Liberté d'expression, j'y suis attaché aussi.
Greg, il va faire, on en a parlé la dernière fois, le GR20 avec nous. Donc, je pense qu'il y aura sûrement un retour de podcast là-dessus, en espérant qu'on ait pu dire qu'on l'ait terminé.
En espérant qu'il y ait un retour déjà aussi. Quand même. ça sera déjà pas mal.
Peut-être le dernier aujourd'hui d'ailleurs. Mais... dans les actualités, un peu brève là comme ça, j'ai relevé, on peut le dire, bon, on vous avait dit, on avait volé un peu plus que vers le foot. Donc le PSG est champion de France pour la 10e fois de son histoire, dans une ambiance à peu près totalement bizarre.
Avec 22 personnes.
Alors, je balance un petit peu des infos comme ça. Vous commentez ou pas, on peut dire je prends, je laisse, hein, quelque part. Donc, vous voulez un peu réagir là-dessus? Pas forcément.
Après, il ne faut pas non plus banaliser, ça reste un titre de champion de France. Donc, bon, même si, forcément, pour les supporters notamment, ils attendent plus que ça, puisque par rapport aux moyens engagés, ils espèrent plus. Bon, après, ils ont quand même 10 titres en 13 ans. Parce que donc il y a que Montpellier, Monaco et Lille qui ont réussi à gratter un titre, donc c'est quand même un truc qui était pas mal, puisque au final donc, c'est leur 10e titre. Je veux dire, ça reste du costaud. Après c'est sûr que l'étape suivante maintenant c'est faire un vrai truc en Coupe d'Europe et même amener une petite comment dire un esprit d'équipe qui n'a pas l'air de trop exister à Paris en fait, qui a un vrai engouement, que les supporters puissent vraiment s'identifier à cette équipe. C'est le problème qu'il y a, quoi.
Ouais.
Ouais, moi ça me laisse de marbre.
Voilà.
Comme, bah, moi je pense à l'image un peu de ceux qui suivent le foot, quoi. Il y a de la lassitude, je pense. À un moment donné, de voir cette équipe, c'est pareil qu'il y a 10 ans, quoi. Bah, après, il n'y a pas d'évolution depuis 10 ans.
Après, je trouve la réaction des supporters assez intelligente, vu tout ce qui s'est passé depuis le début de la saison, de tous les incidents qu'il y a eu. Bah, oui, parce que. Pour moi, quand on s'appelle le PSG avec des fonds illimités, le championnat de France, c'est le minimum syndical.
Oui, donc, mais tu ne peux pas banaliser non plus.
Non, mais c'est presque une anomalie.
Il n'y a pas de Coupe de France non plus cette année.
Non. C'est presque une anomalie de ne pas être champion de France pour eux. Après, une Coupe de France sur un match couperet, c'est faisable, tu vois. Mais sur un championnat, sur 38 journées...
Bizarrement, ils ont plus de réussite en Coupe de France depuis que QSI est arrivé. Il n'y a que deux fois, je crois, où ils n'ont pas gagné depuis. Alors que le championnat, ils l'ont perdu trois fois, quoi. Donc, au final...
Non, mais ils banalisent pas le championnat, puisqu'ils l'ont fêté. Et moi, j'ai bien aimé, ils l'ont fêté dehors, tranquille, mais pas avec les joueurs, parce qu'ils ne se retrouvent pas dans les joueurs qui... Dire ce qui est, quand tu as un mec comme Neymar qui est sur Instagram à 4h du mat, qui s'en branle et tout, et qui partage plus rien avec leurs supporters.
Voilà, qui s'identifie pas à l'équipe, c'est une chose. Mais après, donc, ils égalisent Saint-Etienne. 10 titres, c'est le record en France.
Ouais, c'est pas les mêmes fonds.
C'est pas la même chose. Non, mais d'accord.
Ouais,
mais
tu peux pas comparer.
Saint-Etienne, à l'époque, ils étaient au-dessus de tout le monde aussi. C'était différent.
Ouais.
Je suis d'accord que là, c'est quasiment logique qu'ils soient champions tous les ans. Mais je veux dire, après, ce qui serait bien, c'est que ça attire d'autres investisseurs pour les autres clubs. On va dire Lyon, Marseille, Monaco, qui ont quand même des investisseurs, mais qui sont pas en fonds illimités comme le PSG. Mais voilà, il ne faut pas banaliser non plus un 10e titre, un record en France. Et c'est le championnat, il ne faut pas oublier que c'est le pain quotidien, on va dire.
Oui, c'est facile
c'est
pour eux.
Toute la saison, tout le long, c'est le fil rouge de ta saison, c'est ça. La Coupe d'Europe, c'est un bonus. Alors certes, maintenant, c'est ce qu'ils espèrent, comme Manchester City est dans la même idée. Chelsea, à l'époque, quand Abramovich est arrivé en 2000...
concurrence, Manchester City...
C'est pas le même championnat.
Le même championnat, non, mais ce que je veux dire,
c'est
que...
Non, mais si t'as envie d'être gentil, c'est bien.
Il y a une balance des lipettes ce soir.
Non, après, sur l'état d'esprit que tu t'y retrouves pas, qu'ils sont ridicules en Coupe d'Europe parce qu'ils se prennent des remontadas dans tous les sens, c'est une chose. Mais voilà, après, il faut pas non plus banaliser un titre de champion de France.
Bon, Paris, champion... très rapidement, hein, l'OM qui consolide sa place de dauphin et avec derrière un groupe avec Monaco qui revient très fort, Rennes qui essaie de maintenir la barre, mais j'ai peur qu'il s'essouffle assez vite.
Ils ont du mal face au gros Rennes.
Ouais, puis là Monaco a une fin de championnat un peu plus facile, je trouve, par rapport.
Ils vont aller à Lille et à Lens, hein, quand même.
Ouais, enfin, je sais pas. Après, pour le reste.
Dernier match à Lens, selon où est Lens, ça peut être.
Et avec des clubs comme Bordeaux, quasiment en Ligue 2.
Metz,
voilà.
Metz quasi... encore pire.
Ouais, avec. Voilà, je vous invite à écouter les conférences de presse d'Antonetti, c'est du lunaire. Et Saint-Etienne aussi, qui est pas top top.
Ouais, mais bon. Ne pas oublier qu'il y a une place de barrage maintenant. Donc,
ouais, mais bon, voilà, c'est chaud quand même.
C'est une carte joker quand même.
Donc pour le championnat de France, voilà. En Allemagne, bon, le Bayern, là aussi grosse surprise, ils sont champions.
Quelle surprise.
Voilà, donc alors qu'ils n'ont pas forcément une équipe.
Dix fois d'affilée, je crois là.
Ouais, c'est ça, 10 fois d'affilée, le Bayern. Bon, c'est pas... On s'en fout, on passe vite, on continue.
On s'en fout pas, mais
moi je m'en fous moins que le PSG.
Pourtant, c'est à peu près la même idée.
Tu n'as pas dit pour quelle équipe tu étais. Tu es pas obligé de le faire, mais tu n'as pas dit pour quelle équipe tu étais. Mais on pense deviner.
Bleu et blanc.
Le PSG te laisse de marbre.
Pour trois.
Non, mais après, ça n'empêche pas d'être objectif. Mais par exemple, la période lyonnaise était quand même
plus valorisante.
Plus valorisante, ouais, que celle du PSG aujourd'hui.
Parce que c'était pas.
Et ils ont aussi eu des beaux parcours en Coupe d'Europe.
Mais pas tant que ça.
Champions. Ouais, mais bon, ils sont jamais en finale. Pas du tout le même moyen, quoi.
La seule fois où ils ont atteint la demi-finale.
Ça n'a rien à voir au niveau des moyens.
C'est une bonne réflexion là-dessus.
Sur les moyens, je suis complètement d'accord. Mm. Mais après, par contre, en Coupe d'Europe, alors ils ont fait des beaux exploits, mais ils n'ont jamais passé.
Je tiens à dire que je déteste autant les Lyonnais que les Parisiens. C'est vraiment.
C'est sympathique.
C'est très sympa.
Mais non, mais pour revenir à ça, c'est que là, ils ont fait une seule fois une demi-finale, donc c'était après la période où ils étaient champions, c'est en 2010. Et pourquoi ils ont affronté Bordeaux en quart de finale, quoi. Donc sinon, alors ouais. ils ont fait des super matchs, le Real deux fois. Et
après, ils s'étaient appuyés sur leur centre de formation, c'était tout autre chose.
Ouais, après ils avaient été intelligents dans le recrutement en Ligue 1 aussi. Des mecs comme Messien qui venaient de Bastia ou des mecs comme ça, c'était.
Mais ça restait plus valorisant.
C'était différent.
En Italie, les deux Milan sont au coude à coude. Je ne sais même pas combien de points d'écart.
Il y a un point, je crois. Mais
un point d'écart avec la Juve larguée, quand même.
Mais l'Inter qui a un match en moins.
Voilà. En Espagne, c'est quasi plié pour le Real.
Ouais.
Et le Portugal, on s'en fout, non?
Non, on s'en fout pas.
Non, bref.
Laissez-moi deviner Porto, Benfica.
Au Sporting.
Ouais.
Sporting.
Mais l'ENA, c'est Sporting qui avait fait champion.
Ouais.
C'est un peu surprenant parce que en général, c'est souvent un troisième.
Toi qui suis.
De quoi?
Tu sais pas. C'est Benfica, tu sais pas.
De quoi? Champion? Ouais. Non, c'est Porto. Ils sont invaincus. Voilà. Ils n'ont pas perdu un match encore.
Excusez-nous.
Si, ils ont perdu contre Lyon en Coupe d'Europe. Voilà. Magnifique.
Putain, t'as posé ça là, comme une merde.
Bravo, nos amis lyonnais.
toujours en foot. Très rapidement, Seb, le tirage au sort de la Coupe du Monde. Qui a eu lieu il y a alors au bruit c'est avec les moyens du bord, les gars, donc on a entendu qu'il n'est pas informatique, il est cahier de brouillon,
c'est noté,
il est buvard, t'as un buvard avec toi ou pas?
Il est là. Non, ouais, ben
alors vas-y, tirage au sort de la Coupe du Monde si t'arrives à te relire.
Ouais, bah très, ça jusque là ça va à peu près.
Alors on va pas faire de pronos, mais on fera sûrement une émission là-dessus au moment opportun, pas maintenant.
Donc on va faire un petit détail par groupe.
Ouais.
Donc dans le groupe A, nous avons le Qatar, première Coupe du Monde pour eux, forcément c'est eux qui l'organisent. Un petit commentaire. Mérité cette place en Coupe du Monde
ou tout à fait mérité. Ouais, voilà. Ils pratiquent un football magnifique. Ils ont une culture foot.
Plus que la France.
Voilà, c'est le Brésil à côté, c'est de la gnognotte.
Ouais, c'est ça.
Donc voilà, donc dans leur poule, ils ont l'Équateur. Une petite connaissance sur l'Équateur, quelque chose.
Non.
Pas mal, hein, ils ont été troisième, je crois, si je dis pas de bêtises, sur les qualificatifs derrière les deux gros.
C'est Quito là,
Quito la capitale.
Ah, ok, voilà. Mis à part Quito, on les a joués.
Ouais. Alors, ils n'étaient pas à la dernière Coupe du Monde, dernière participation en 2014, et leur meilleure performance est un
quart.
Huitième de finale. Bravo, Grégory. Bravo.
Huitième.
Bravo. Un huitième en quelle année? Voilà.
88. Non, 88. Pas 86.
C'est récent. C'est après les années 2000.
Ouais. Ouais, ouais, 2006 en Allemagne. 2006,
oh putain. Ouais.
Et oui. Ah, donc dans la poule, il y a le Sénégal. Nos amis champions d'Afrique des Nations. Qui,
belle équipe. Hein.
Oui, qui est une équipe qui peut faire quelque chose.
Belle équipe.
Alors, surtout que
avec Sadio Mané.
Sadio Mané.
C'est un monstre.
C'est un monstre.
Ouais.
Il est très fort. Ouais, il est très fort. Avec le Sénégal, il va être très très fort.
Sénégal, donc, qui était là en 2018 et qui a pour une meilleure performance en quart de finale. Donc, meilleure performance pour un pays africain à égalité avec
le Cameroun.
Et le Ghana.
Ouais, c'est vrai.
Donc, voilà.
En France.
Hein,
le Ghana, c'est en France?
Non, le Ghana, c'est en 2010.
C'est en Afrique.
Et surtout en Afrique du Sud. Et surtout, on va y venir, mais ils sont dans la poule de l'Uruguay qui les avait éliminés grâce à la main de Suarez. Donc là, la quatrième équipe de ce groupe, c'est
la Bible. Étonnant, ouais, c'est ça. Eh oui, mais je l'ai présenté comme ça, c'est la Bible. Grimoire.
Les Pays-Bas pour la quatrième équipe, donc favori de la poule, je pense, assez facilement. Donc théoriquement, je pense, bon, ça, on y reviendra en pronostic, mais ça devrait sortir.
Ça faisait un bail, non, qu'ils n'étaient pas qualifiés pour une Coupe du Monde?
Juste la dernière. Ils ont raté la 2018 et sinon 2014, ils étaient là.
Bon, autant pour moi. Phrase inutile.
Johan Cruyff n'est pas sélectionné cette année, Rafi.
Non, plus là. Non.
Patrick Kluivert, il n'y est plus?
Non. Mais
putain, je cherchais Bergkamp, c'est Kluivert qui est sorti.
Son fils peut-être sera là.
Ah.
Justin. Donc voilà, donc, bon, Pays-Bas, Sénégal devraient sortir de la poule. Les Pays-Bas qui ont fait 3 finales de Coupe du Monde.
On a dit pas de pronos, je t'ai dit.
Oui, non, non.
Et
mais
le
sans,
mec, il te dit
sans
pas
parler de
pronos,
prono, mais je veux dire, on est d'accord que voilà, on peut quand même un peu se pencher là-dessus. Le groupe B est composé de l'Angleterre, de l'Iran, des USA, et après une équipe surprise qui sera européenne, donc à définir entre le Pays de Galles, l'Écosse et l'Ukraine. Bon, l'Ukraine, j'ai bien peur que ouais, c'est la meilleure équipe des trois, je pense, mais
ça va être un peu chaud.
Je pense que ça va être compliqué pour qu'ils puissent postuler.
Pas foot.
Ça va être un peu tendu pour qu'ils participent. Donc, dans la poule, donc on va se revoir un petit USA-Iran. Ça peut être sympathique au niveau géopolitique.
98
98, ouais. Avec le résultat,
je sais plus.
L'Iran qui avait gagné 2-1. Mais les deux avaient été éliminés, donc on s'en foutait.
Ça va être tout plus intéressant au niveau géopolitique que
c'est ça.
Footballistique, je pense, la Coupe du Monde.
Et éventuellement, bon, ça, on en a eu un peu à l'Euro, mais un Pays de Galles ou un Écosse-Angleterre, ça peut être aussi un petit peu sympa.
Petite Islande, non ? Je n'ai pas suivi.
Islande,
mais
sont pas là.
Ils
ne sont pas là.
On n'a pas droit au clap.
Pas de clapping, mais pas islandais.
Moi, en tant qu'Afrique du Sud, il n'y a pas l'Afrique du Sud.
L'Afrique du Sud,
on n'aura pas les Vuvuzela.
Les Vuvuzela, ça c'est que chez eux.
C'est pas grave.
Alors après, on a un petit groupe C composé de l'Argentine, de l'Arabie Saoudite, du Mexique et de la Pologne.
Joli.
Donc voilà, pas trop mal non plus. L'Argentine, les quatre pays étaient là en 2018, donc des habitués, on va dire, hein, en général. Le Mexique a un petit peu baissé. L'Arabie Saoudite qui cartonne en général dans leur qualificatif, mais après en Coupe du Monde, ils se font toller. En Russie, ils avaient pris 5-0 face aux Russes. En général, voilà. Donc, le groupe D qui va un peu plus nous intéresser, la France.
La chatte à Dédé.
Avec le Danemark, la Tunisie.
Et il a touché.
Et une équipe surprise entre les Émirats Arabes Unis, l'Australie et le Pérou. Donc, si l'Australie et le Pérou passent, ben, un des deux passe, ce qui semble logique. On va se retrouver avec quasiment le même groupe qu'en 2018.
Alors, l'Australie
et le Pérou. Le Danemark, tant mieux pour nous. Parce que
c'est tout le temps. Quoi.
Le Danemark, à chaque fois qu'on a gagné quelque chose, le Danemark était là. 84, 98, 2018. Bon, après, ce n'est pas un bon souvenir non plus, parce qu'en 2002, ils étaient là aussi. Et
on se rappelle que. On s'est fait sortir assez rapidement.
Autre petite analyse comme ça, le Pérou.
Le Pérou, c'est pas un peu costaud quand même.
C'est pas ouf.
Pas plus que ça.
Non, c'est pas ouf. Mais surtout, le Pérou, quand ils sont en Coupe du Monde, le futur champion affronte toujours le Pérou. À un moment donné. Donc au cas où, on a vu ça en 2018 notamment.
Voilà, comme ils vont faire que 3 matchs, du coup, le Danemark a ses chances.
Le Danemark a ses chances. Ou la Tunisie, voilà, au choix. Donc voilà, groupe E, on a l'Espagne, petite équipe, avec l'Allemagne, petite équipe aussi, ça peut être marrant. Ouais. Le Japon, qui est content de ce tirage.
Ils n'ont pas de cul à chaque fois, au cas.
Ils sortent des poules quasiment à chaque fois, mais là, ils ont un peu baissé.
Ah, bah oui, bah, Espagne-Allemagne, déjà, c'est trop compliqué.
Ça réduit un peu les possibilités.
Et Hiroshima. Quoi.
Et le. Ouais, c'est ça. Ils vont prendre deux trucs. Et une quatrième équipe à définir entre le Costa Rica et la Nouvelle-Zélande.
Bon, ouh là, grosse info pour ce groupe voilà. Qui peuvent jouer les troubles, en fait.
Qui a envie de venir se faire fesser par les deux autres.
Ouais, c'est ça.
Faites un barrage et venez.
En fait, c'est ça le nom de ce groupe. Qui veut se faire fesser par
les Canaques, je pense. Les Canaques, ils sont habitués un peu, non ?
C'est les Maoris.
Les Maoris ?
Ah oui, les Canaques,
c'est la Nouvelle-Calédonie.
Ah, pardon.
Attends pour nous, mais c'est pas grave.
Géographie.
Parce que nous faisons aussi de la culture sport, mais aussi de la culture géographique. Merci.
Il y a culture, c'est pas que sport. Le groupe F, avec nos amis belges, hein, habitués à perdre face à la France. Le Canada, le Maroc et la Croatie. Canada qui n'était pas là depuis 86.
Oh,
c'est la seule qu'ils avaient fait d'ailleurs, en 86.
Mais on ne va pas les revoir pendant 25 ans. Quoi.
Mais ils ont une petite génération qui est pas mal, puisqu'il y a David devant, il y a... merde, j'ai oublié le nom.
Jonathan derrière. David Jonathan.
D'accord.
Désolé.
Mais rigole pas, il s'appelle Jonathan en plus. Hein, mais...
Je sais.
Et le mec du Bayern.
Je ne suis pas à ton niveau encore, mec. Je suis désolé.
À niveau blague, on est... au top là. Ouais. Oui, j'ai oublié le nom du mec qui joue Bayern, qui joue à gauche.
Davis.
Alphonso Davis, c'est ça. Donc voilà, donc une génération qui est pas trop mal.
Ouais, j'ai calmé. Mauvaise blague, mais super culture, t'as vu.
T'as vu
joueur.
Rebond. Magnifique rebond. Ouais. Donc voilà, donc avec Maroc et Croatie, bon, les deux pays
les
européens.
C'est un peu vieux, mais.
Mais ça sera au-dessus, je pense.
Oui, je pense aussi.
De ce qu'on a. Ensuite, le groupe G, avec pareil, trois équipes qui sont déjà affrontées sur la dernière Coupe du Monde, le Brésil, la Serbie et la Suisse. Avec le Cameroun.
Attention les Suisses. Hein.
Les Suisses costauds en fait.
Ouais.
Pas forcément phénoménal, mais toujours chiant à jouer. Donc ça, les Serbes, ça sera peut-être un poil en dessous. Mais...
joli petit groupe ça.
Ouais. Et puis, le Brésil est l'un des favoris de la Coupe du Monde qui n'a pas gagné depuis 2002. Donc ça commence
ouais,
un
mais
peu
ils en démarrent.
Ouais, mais là, il commence à avoir une petite génération qui arrive. Mais ouais. Hors Neymar, ça peut faire pas mal. Et le groupe H, le Portugal, le Ghana, qui étaient déjà ensemble en 2014. dans la même poule. L'Uruguay, donc Uruguay-Ghana qui vont se recroiser après le dernier bon souvenir de 2010. Ça va être,
Et le dernier, c'est qui ?
Et le dernier, c'est la Corée du Sud.
Donc, voilà. Franchement, c'est pas méchant ce que je vais dire. Attention, hein, je sais pas qu'il y ait une connotation négative, mais quand t'as Portugal et Uruguay dans la même poule, petit groupe de salopes, hein, quand même. Je suis désolé, mais oh là 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 là.
Donc ils vont s'affronter au deuxième match, je crois, les deux.
Ça va donc, traîner par terre.
Ouais. Oh là là.
Là, c'est accrocheur. C'est...
Ah,
ils se sont affrontés en 8e là, en 2018, les deux.
Ça va être compliqué à les jouer. Hein. Passé, ouais. C'est très compliqué à les jouer.
Donc,
pour la Coupe du Monde,
on a quasiment tous les vainqueurs sont là, sauf un.
C'est en novembre, décembre.
À partir de novembre-décembre.
Ouais. Donc en plein championnat, magnifique.
Mais ça sera une coupure.
Ouais. Bon, on fera des pronos.
On fera des pronos parce qu'il y a
à ce moment-là.
Il y a de quoi faire.
Pour terminer la page foot, on va jouer à un jeu rapidement de pronos parce que, alors, on tourne ce podcast avant les matchs aller des demi-finales des compétitions européennes, notamment en Ligue des Champions. Vous me dites très rapidement.
Ligue des Champions ?
Ligue des Champions, ouais, Ligue des Cochons. Liverpool, Villarreal en Ligue des Champions.
Liverpool.
Qui sort ?
Liverpool.
Ouais, je suis assez d'accord. Et Manchester City, Real.
J'ai envie de miser City, moi. Ça va être plus compliqué, hein, mais...
Moi, j'aimerais City aussi. J'aimerais City. Putain, on est tous d'accord. City, magnifique.
Un petit Liverpool-City en finale. Liverpool. Ils se sont déjà croisés deux fois en championnat.
Magnifique. Ça ferait une belle finale.
Encore en coupe, je crois.
En Europa League, bon, un peu moins sexy, du coup, mais on a Leipzig-Rangers.
Ouais, Leipzig.
Pareil, Leipzig.
Il faudrait que pour la France, ce soit Leipzig qui y passe, qui gagne même l'Europa League. En gagnant l'Europa League, ça mettrait la troisième place du championnat de France.
Bah c'est
automatiquement
comme tous les ans
en Ligue des Champions.
En Ligue des Champions, tout d'accord, à fait. C'est un tour préliminaire.
C'est ce dont a profité Rennes il y a deux ans, notamment quand.
Mais en face, il y a du costaud. Il y a West Ham, Francfort.
Moi, je mettrais Francfort.
Ouais, je pense aussi. Tombeur du Barça au précédent tour.
West Ham, tombeur de Lyon, avec un non-match de Lyon. Donc,
ouais, non, mais ouais, Francfort, c'est costaud. Hein.
Ouais, Francfort, puis ça joue surtout. West Ham, il y a Declan Rice qui est costaud, mais après.
Bah alors, je vais dire West Ham.
À l'anglaise. Ah, parce qu'il y a Declan Rice.
Il est dans le défi, le garçon.
De toute façon, en général, quand il y a un club anglais contre un club allemand.
Le football se joue avant.
Il est dans le défi.
Et à la fin, c'est les Allemands qui gagnent.
Hein. Il est dans le défi. Et en Conference League, pour terminer.
On n'en parle pas.
Si. Il y a un petit Leicester Rome.
C'est le futur vainqueur qui est là-dedans. Là.
Ah, moi, je vois Mourinho, je vois Rome passer.
Je sais pas. Là, je me tâte un peu. Leicester, ils méritaient pas de passer face à Rennes il y a deux tours. Mais la Roma, c'est pas phénoménal. Hein.
Ah, Mourinho, il a les clés.
Ouais, mais ils sont passés.
Puis manque d'expérience au niveau européen pour Leicester.
Ouais, mais la Roma, c'est... T'as pas des grands joueurs, vas-y, cite-moi un joueur de la Roma.
Ah non, mais je suis d'accord avec toi.
Cite-moi un joueur de Leicester. T'as l'attaquant au moins.
Oui.
Jimmy Vardy.
Ouais. Même Jimmy Vardy. Même en lui disant, il a pas, c'est... tout va bien. Non, voilà, donc la Roma voici, t'as Abraham devant, quoi, mais genre, c'est pas.
Ouais, bah, écoute,
ça fait pas rêver non plus.
Franchement, quoi. J'aurais pas su un cite non plus.
Si,
y a pas El Charaoui aussi ?
Non, putain.
Si. Attends, il a bougé, je crois. Non, il y est encore, je crois. Il est encore remplaçant.
Ouais. Ouais, on va faire les Jean-Michel à peu près.
C'est le Ben Arfa italien, lui, non ?
C'est le. Ouais.
Oula.
Qui ? Non, ouais.
Atem qui ?
Dans l'état d'esprit, c'est un peu mieux. C'est pas phénoménal.
Donc, Leicester, Rome ?
Je vais tenter Leicester.
Ah, Leicester. Et OM Feyenoord. Alors, moi, je vais éviter de me prononcer parce que. Le cœur va pas être objectif, mais bon, je pense que ça va être une belle demi-finale parce que Feyenoord, ça a l'air d'être une belle équipe aussi.
C'est pas forcément une belle équipe, mais bon, tu auras une ambiance assez chaude là-bas.
Ouais.
Et c'est pas un bon souvenir pour Marseille. En Ligue des Champions, ils avaient pris un 3-0 là-bas. Là,
sûrement,
dans les années 90.
Je me rappelle plus. Oulala, oui.
90 ou 99, je crois.
Donc je sais pas. J'ai envie de dire OM, mais voilà, c'est pas objectif.
Ouais, je pense que Marseille va passer. C'est la finale qui vont peut-être bugger un peu. Mais elle est abordable.
Comme souvent.
Malheureusement. Ouais, mais là, c'est pas un Atlético, c'est pas un Parme, c'est pas un Valence. Leicester ou Roma, ça sera plus.
Oui, le Marseillais, ouais.
L'OM.
Bonne dynamique.
Ouais.
C'est en plus, ils ont même le luxe de pouvoir se reposer un peu en championnat.
C'est ce que j'ai dit, ouais. Ils peuvent d'avance. Relâcher un peu le championnat.
Donc, bon, encore un match, je pense. Encore un match ou deux, il faut tenir un peu. Après, je pense que ça va
droit. 6 points d'avance, il reste 12. Donc. Ouais. T'as une différence de but, sauf face à Rennes qui a une plus belle différence que toi. Après.
Donc voilà, on va fermer la page foot. J'avais prévu de faire une page NHL sur le hockey, mais je me suis aperçu en fait qu'ils sont même pas encore en playoff. Donc on fera un petit laïus là-dessus parce que c'est un sport que j'aime bien. Pour un petit peu en parler, et on parlera sûrement de Gap aussi en même temps et de leur saison. On fera ça dans un autre numéro. Seb, toi qui suis un petit peu plus la NBA, ouais. Allez, sors le cahier, fais péter le cahier.
Ouais, non,
qu'est-ce que
pas.
Tu peux nous dire sur la NBA, la vite fait sur les playoffs?
Pas grand-chose. Hein, on va surtout parler vite fait des playoffs qui ont attaqué, là, qui sont tous quasiment à 4 matchs. Donc, d'un côté, il n'y a pas trop de surprises. Tous les 4 premiers du champion.
Côté Est ou Ouest, là, du coup, tu fais
Si je dis pas de bêtises. Côté Est, si je dis pas de bêtises. Non, oui, côté Est, pardon. Donc, les Bucks qui ont fait 3e du championnat régulier mènent 3-1 face aux Bulls.
Ah, Milwaukee, Chicago.
Ouais, bon, les Bucks avec Antetokounmpo.
C'est les anciens. Ouais, putain, enfoiré. Parce qu'on a fait un NBA avec, sur la play avec Seb, il m'a fracassé avec ce joueur. C'est les précédents vainqueurs, c'est ça, de la NBA? Je dis pas de conneries.
Non, c'est les Raptors. Attends, les Raptors, ils ont gagné quoi il y a 2 ans? Ouais, les Raptors, il y a 2 ans. Les Niners, non.
C'est pas les
Lakers qui ont gagné.
Oui, je crois, ouais. Donc, j'ai rien dit.
Ils sont pas loin depuis 2-3 ans, mais pour l'instant, ils n'ont pas gagné, je crois.
Okay.
Donc, le vainqueur affrontera le vainqueur de Celtics-Nets. Celtics, c'est donc 2e de la saison régulière qui mène 3-0. Donc là, c'est...
Contre Brooklyn Nets, avec il y a Harden.
Il y a Harden et.
Putain, Harden, quel joueur.
Et Irving.
C'est vrai que j'aurais pu le présenter comme Irving. James Harden. La barbe, ouais. Uniquement. La barbe uniquement.
Ouais.
La
barbe uniquement.
La voilà, précision, voilà. Sinon.
Ouais, ouais, sûrement.
Là.
La précision.
Non. Ça ne marche pas, monsieur. Ensuite, le Miami Heat qui a fait premier de la saison régulière qui mène 3-1 face au Atlanta Hawks. Donc, ouais, la logique respectée jusque-là. Et donc, le 4e de la ligue, les Philadelphia Sixers qui mènent 3-1 face aux Toronto Raptors.
Yes.
Donc voilà, donc là, de côté Est, il n'y a pas trop de surprises. Les matchs sont quasiment pliés. Donc il reste encore une victoire pour les équipes qui mènent pour passer. Côté Ouest, plus serré, plus étonnant. Mis à part les Warriors qui mènent 3-1 face aux Nuggets. Warriors qui ont fait 3e de la saison régulière. Qui affronteront les vainqueurs de Grizzlies Timberwolves. Il y a 2-2 pour l'instant.
Minnesota.
Donc surprise. Ouais, Minnesota contre Memphis. Les anciens Vancouver Grizzlies.
J'adore leur maillot, ouais. Et leur logo.
Leur golo.
Leur logo.
Leur golo. Non, t'as entendu?
Ah, oui.
Oui, oui.
Sans hésitation.
Golo.
Et de l'autre côté, même chose. Les Suns qui ont fait premier de la saison régulière qui sont à 2-2 face aux New Orleans Pelicans. Et les Dallas Mavericks qui font 2-2 face aux Utah Jazz de Rudy Gobert. Donc pour l'instant, là, tout est à jouer. Donc mis à part peut-être Golden State qui est quasiment...
Rudy Gobert qui refait une saison stratosphérique.
Mais qui finit pas meilleur défenseur.
Ouais, mais bon. Ouais. Mais voilà quoi.
Bon, ça se passe pas grand-chose. Donc voilà. Donc quoi, là,
ça fait 2-3 ans qu'il est dans,
ouais,
dans l'All-Star Game.
Je crois.
Ouais, c'est... Dans l'All-Star Game, c'est pas mal quand même.
Ouais, bon, c'est costaud. Ouais. C'est un monstre en défense.
Oui, mais voilà, d'y être...
Sous la raquette, c'est...
Ouais, ouais.
C'est costaud.
Super
donc
gars.
Voilà, donc, pour ce premier tour de play-off...
Pour finir sur les actus, pêle-mêle, Thibaut Pinot qui a gagné une étape dans le Tour des Alpes. J'aime bien ce coureur de cycliste dans le cyclisme. J'aime beaucoup ce coureur qui a été souvent blessé, qui était très favori dans beaucoup de grosses compétitions, notamment dans le Tour de France, avec une grosse chute de comment il s'appelle, de Julien Alaphilippe, notre champion du monde français, notre double champion du monde français, qui j'espère reviendra en forme et très incertain. Bon, j'imagine que vous n'allez pas réagir là-dessus.
Si, pour venir sur Pino, c'est bien parce que d'habitude il est noir, quoi.
Oh putain, Pino, alors fais attention, oui, voilà, oui.
Voilà,
culture Vinas aussi, ce podcast.
Voilà, voilà.
Et pour finir dans les actualités, Tsonga qui prend sa retraite en tennis.
Oh merde.
Oh, on s'en fout pas.
Il avait commencé. Attends pour moi.
Joe.
Ah non, il avait fait une bonne perf en Australie en 2000 et quelques, là, ouais.
Oui, c'est ça.
Une finale.
Ouais, il a fait le joueur de tennis français de base, on va dire, quoi.
Ouais, c'est vrai.
Alors,
que
attention,
tennis...
messieurs, parce qu'on va sûrement recevoir des tennismen dans pas
très
longtemps.
Non, mais c'est... Mis à part en Coupe Davis, on n'est pas trop... Mais...
Ah, c'est vrai.
Plus trop dernièrement, mais
quand
en Coupe Davis,
la
bizarrement...
Joue, oui.
Ouais, non, mais... bizarrement, on ne gagne pas de grand chelem, mais en Coupe Davis, on a gagné quelques-unes.
C'est vrai qu'il a fait partie de ces joueurs... potentiellement vainqueur de Roland Garros qu'on attend toujours depuis 83 et Noah, mais bon, pour l'instant
Les meilleurs perfs à Roland-Garros, rappelez-moi.
2000, non.
Aujourd'hui, un quart, moi, aujourd'hui.
Un quart ou un demi Bon, remarque, c'est vrai qu'avec les monstres à côté, tu peux pas dépasser.
Ouais, non, mais bon.
Fallait battre un des quatre fantastiques.
Il y en a d'autres qui ont réussi, hein, donc...
Oui, mais
après,
bon.
Après, lui, ça lui arrivait aussi. Je crois qu'il avait battu Federer une fois, non
oui,
quand il était malade.
Chez lui, en Suisse, parce qu'il vient en Suisse d'ailleurs.
Non, mais
la doublure, ouais.
Au baby-foot, il avait battu. Mais bon, il a battu, quoi. C'est
bon, on va clore cette brève. Pour aborder un petit peu rapidement, j'avais pas vu le timing du podcast. Je voulais faire un débat. Ça arrivera souvent, ça, dans ce podcast, qu'on parle de sujets un petit peu au-dessus du sport, mais qui restent liés au domaine du sport. C'est parce que je me suis aperçu, peut-être à tort d'ailleurs, que quand on parlait de sport, en général dans notre société en France, la personne qui parlait de sport ou qui était passionnée de sport était souvent vue de haut. J'ai pas réussi à trouver la question parfaite pour lancer ce débat, parce qu'il peut vite se dévier sur beaucoup de choses. J'avais comme idée, c'était « faut-il être con pour aimer le sport ?» Pourquoi les gens qui suivent le sport sont vus comme des cons, mais qui va amener peut-être à la finalité suivante, c'est en gros pourquoi en France le sport n'est pas inscrit dans sa culture. Je prends quelques exemples pour argumenter ce qui m'a questionné là-dessus. On sort tout juste, on est à peine quoi, le lendemain des résultats des élections présidentielles. Bon, on ne va pas parler de politique ici. Mais simplement pour dire que dans les programmes de chacun des candidats, presque pas un mot sur le sport. Il faut savoir qu'en France, le ministère des Sports est un ministre sous tutelle de l'Éducation nationale. Donc même pas un ministère propre à lui. On le voit, Greg et moi, on le voit au travers de l'Éducation nationale. Le sport a quand même, c'est quoi? C'est 3 heures de pratique par semaine, ce qui est très très peu. Période de Covid, le sport s'est très très vite arrêté, bien que ça soit une économie, bien qu'il y ait des employés aussi dans le sport. J'espère qu'on aura des partages de personnes qui travaillent dans le domaine du sport et qui pourront un peu plus nous en parler de leur activité dedans. Mais le sport s'est totalement arrêté en France parce que c'était pas important, alors que ça restait de l'économie aussi, alors que dans d'autres pays, le sport ne s'est jamais arrêté, ou du moins on a tout fait pour le continuer, même avec des difficultés par rapport au contexte sanitaire. Et pour finir, après je vous laisserai un peu avec tous ces arguments-là, le prendre un peu à votre sauce. On essaye en France, au travers d'émissions, de magazines, il faut savoir qu'en France il n'y a qu'un seul quotidien sportif, L'Équipe, bon, qui a tué un peu la concurrence, mais bon, c'est pas vendeur un quotidien de sport en France, ce qui veut quand même dire ce que ça veut dire aussi. Des difficultés pour mettre des émissions télévisées sportives, si ce n'est sur des chaînes payantes, et des chaînes publiques, il n'y en a quasiment pas. Et dans sa littérature aussi, comparé à des pays comme l'Argentine, enfin des pays sud-américains ou des pays plus latins que les nôtres, parce que nous on est latins certes, mais peut-être moins que l'Espagne, le Portugal ou l'Italie, où là vraiment il y a une culture sport avec beaucoup de littérature. Chez nous la littérature ça s'assimile je vais un peu exagérer là, hein, mais du Victor Hugo, ou alors tout ce qui a trait au prix Goncourt, ou tout ce qui passe chez Ruquier peut-être le samedi soir, mais c'est vrai que la littérature sportive en France c'est très faible, et souvent les journalistes ou les écrivains sportifs sont vus comme un peu des journalistes low cost, alors que dans des pays sud-américains, c'est quand même assez développé, ou ne serait-ce qu'en Argentine, là Seb, alors, je ne sais pas si tu es un petit peu intéressé, mais il y a beaucoup de débats sur le ménotisme et le billardisme, ce sont des pensées pensées footballistiques dont s'est inspiré Bielsa, Guardiola, tout ça. Il y a un commentateur, le fameux commentateur de Maradona de la Coupe du Monde 86, je ne sais pas si vous l'avez entendu une fois en version originale, qui s'appelle Victor Hugo Morales, donc fan de Victor Hugo, hein, apparemment les parents, mais qui a écrit plein de bouquins et qui fait une émission qui a tenu pendant au moins 30 ans, 40 ans, où il alliait poésie et sport. Il faut quand même arriver à le faire dans un pays qui est très passionné par le foot, mais c'est vrai que chez nous je trouve que ça a un peu du mal à percer, et que dans notre société d'aimer le sport c'est pas forcément ça n'a pas forcément une connotation hyper positive. Je vais arrêter de parler, mais je voulais qu'on en parle un petit peu ensemble, qu'on se pose quelques minutes là-dessus, et puis ça vous permettra, vous aussi, chers auditeurs, peut-être lors d'un passage ou dans des commentaires, bah, d'avoir des réflexions ou des pensées là-dessus. Je vous laisse la parole, peut-être. Vas-y, Seb, je t'en prie.
Alors moi, le premier aspect que je peux évoquer, c'est déjà le football. C'est vrai que soit tu as des gens qui sont passionnés de football, bon, comme nous ou quoi. Après, sinon, beaucoup de gens en fait décrivent le foot, alors, notamment parce que maintenant c'est beaucoup des starlettes et des trucs comme ça. Ou donc du coup, je pense que l'image du football a pris une mauvaise image depuis, on va dire, peut-être la fin des années 90, début des années 2000, où ça a commencé à beaucoup se détériorer. L'équipe de France de la période 2008-2012 n'a pas aidé, c'est certain. C'était vraiment là.
C'est catastrophique.
Ouais, notamment, ouais. La période Domenech, hein, tout simplement. Mmh. Alors, je dis pas forcément que c'est la faute à Domenech, hein, mais bon, il a sa part de responsabilité, comme certains joueurs avec leur mentalité ont leur part de responsabilité. Donc ça, déjà, cet aspect-là, je pense que ça a beaucoup fait de mal au sport. Parce que bon, le foot, c'est quand même, en France et quasiment partout dans le monde.
C'est le sport numéro 1.
Oui, en France, mais bon, genre, dans 99,9% des pays dans le monde, je pense que c'est le sport numéro 1, à part aux USA et peut-être dans certains pays comme peut-être l'Australie, des trucs comme ça. Donc ça, je pense que ça fait énormément de mal. Cette mentalité, donc, justement, de joueurs où les minots... Il y avait cet aspect où ils sortaient des centres de formation avec pas forcément beaucoup de côté éducatif, on va dire, qui a été rattrapé par beaucoup de centres de formation maintenant, puisque ils ont un suivi qui est quand même un peu plus développé maintenant depuis cette période. Mais il y a eu ce petit creux qui a été fait. Quand on entendait les joueurs s'exprimer, on avait l'impression qu'ils étaient un peu limités, quoi. Donc ça, pareil, ça n'a pas donné une belle image. Donc après, les problèmes aussi de crise financière fait que quand tu vois des gens qui sont surpayés et tout juste pour jouer au foot, tu te dis bon, mais ça baisse un peu l'image aussi là-dessus. Donc je pense que par rapport à ça, déjà, premier aspect que je voulais évoquer, c'était ça. Ensuite, un deuxième truc, c'est en France, tu le vois juste pareil avec les stades. Donc là, pareil, je vais rester dans un premier aspect sur le foot, mais ça peut marcher avec le basket ou quoi. Tu vois les taux d'emplissage des stades, que ce soit en première division, deuxième division, dans les gymnases, même ne serait-ce que les gymnases. Tu prends les équipes de hand comme Montpellier qui cartonnaient à une époque. Tu vois les salles de sport qu'ils avaient. Quand tu regardes des salles de sport en Hongrie ou quoi, c'est 10 fois plus grand, 10 fois plus adapté, tout ça.
Ouais, mais c'est peut-être là leur sport numéro un aussi.
Aussi, mais genre, tu prends le foot. Genre, le foot, même de Marseille qui a la plus grosse affluence de France, qui a le plus gros stade de France,
parce que c'est pas le meilleur taux de remplissage.
Ouais, c'est pas le meilleur taux de remplissage. Je veux dire, c'est aussi un fait que dès que l'équipe va pas bien, ton taux de remplissage, il baisse. Alors je dis pas qu'il tombe à 15 000, mais je veux dire, tu prends Lyon là, en ce moment qui va pas très bien, le stade était vide quasiment ce week-end. Paris, bon, ça c'est un tout petit stade pour une aussi.
Enfin, Paris aussi, c'est devenu un Disneyland, ouais, quelque, ouais, part, donc
aussi, mais bon, genre, leur taux d'emplissage est quand même assez plein.
Je voudrais mieux pas qu'il soit plus grand, le stade, même, j'ai envie de te dire, pour PSG.
Alors, il remplirait.
Ouais, mais c'est des touristes qui viennent voir le. Ouais. C'est des touristes qui viennent voir, mais un peu comme en Angleterre. Hein. Ouais. En Angleterre, il y a beaucoup de touristes. Enfin, avec Seb, on a fait l'expérience quand on a essayé de trouver des places pour Liverpool, mais mec,
c'est cher.
C'est pas cher, c'est une horreur, tu peux pas. En fait, c'est très fermé déjà, de une. Mmh. Et puis, oui, les quelques places qu'on avait vues en extérieur, bah oui, forcément, c'est avec notre pouvoir d'achat. Enfin, désolé de faire cette connotation-là, mais c'est un peu obligatoire. Mais c'est vrai que pour nous, de mettre 350 euros ou 450 euros dans une place, ah ben non, c'est pas possible, quoi. C'est très cher.
Tu le fais une fois, quoi. Tu fais, bon, ouais, tu t'abonnes pas l'année, quoi.
Quand tu es à l'heure au match.
Ah ouais, c'est ça. Tu profites du
tu vois l'échauffement, tu vois tout, quoi. Dès que les grilles s'ouvrent, tu plonges dedans.
Mais ouais, donc ouais, pour revenir sur ça ou quoi, genre, tu vois, par exemple, en Allemagne, où tu as une culture du sport qui est quand même différente et tout, alors, ouais, que, je veux dire, on est quand même assez proche de l'Allemagne maintenant. Je veux dire, on est les deux pays européens qui se ressemblent peut-être le plus en termes de population, de superficie, tout ça. Et je veux dire, mais tu vas même en 4ème division en Allemagne, c'est plein à craquer, quoi. Mm. Quand tu vois que les Francfort, justement, on disait à Barcelone, ils sont allés, c'était 30 000. Bon, ils ont détourné un peu les trucs parce qu'ils ont racheté des places de supporters espagnols ou quoi, mais je veux dire, 30 000 à l'extérieur, c'est exceptionnel, quoi. Alors, le stade, il fait 90 000 et quelques à Barcelone. Mais je veux dire, 30 000 supporters qui se déplacent et tout. Je veux dire. Donc, voilà, on a une culture du sport qui est quand même assez différente. un peu banalisé. Donc on a de la passion, on va dire, pour le sport, mais voilà, c'est un peu. Et autre chose aussi qui fait que le sport peut-être un peu baissé, c'est les nouvelles générations qui font que maintenant tu as plein de nouveaux attraits, on va dire, que ce soit de la console, que ce soit bon, les ordinateurs, des trucs comme ça, la musique ou autre chose, qui fait que tu as de moins en moins de licenciés dans les clubs. Le Covid n'a pas aidé non plus, mais Gerbe pour avoir été dirigeant, Raphaël a été aussi, toi tu as vu aussi un petit peu Grégory. C'est. J'ai pensé à un truc, excusez-moi, je rigole. Mais.
Fait partager.
Non. Donc, ouais, on voit que c'est compliqué, même pour faire une équipe de.
Super sérieux.
De 8 minutes. Non, parce que je pensais une connerie en même temps.
On pense presque à une bipolarité, là.
Ouais, non, c'est. Non, ouais, genre, pour faire des équipes où t'as. Alors, 8 minutes sur le terrain, donc tu comptes, il te faudrait au moins une douzaine pour le week-end. Donc, tu comptes une quinzaine en comptant les absents et tout. Tu galères pour en avoir 8, quoi. Donc, genre, t'as de moins en moins de licenciés dans les clubs. Et c'était. Et je parle.
Bon, je peux penser à faire ce rapport-là, oui, ouais. Non, c'est très juste.
T'as le Covid qui a joué là, mais genre, on a entraîné 5-6 ans, même un peu avant le Covid, c'était déjà le cas. Donc, c'est pas que le Covid, c'est un désintéressement aussi du sport.
Ça devient culturel.
Ouais. C'est ça. Donc, voilà.
Greg, ouais.
Ouais, bah, Seb a bien allé dans mon sens, je trouve. Après, moi, je pense qu'il a été même un peu doux. Avec nos sportifs français, bon, je vise beaucoup les footballeurs parce que bah ouais, sport numéro 1 en France, football, très loin devant à mon avis.
Ah oui. En termes de droits TV, de popularité,
hors concours, même.
Alors que, il n'y a pas de rivalité. Alors que pourtant, on a le meilleur championnat de rugby en Europe.
Oui.
On est un peu l'équivalent du championnat anglais au foot pour le rugby en France, mais bon, ça n'a pas le même attrait. Donc moi j'irai ouais encore un peu plus loin que Seb, je pense que tu as
avec,
la
avec plus de victoires en Coupe d'Europe pour nos équipes de clubs nationaux.
Oui très largement. Ouais. Ouais. Même les Français en général s'affrontent en finale. Enfin, c'est...
Oui.
L'année dernière c'est clair.
Ouais. Mais oui donc j'irai un peu plus loin, je dirais que tu as l'attrait que tu mérites en fait. Voilà quand tu les gens ils ont besoin de se bon, déjà, c'est vrai que de base, je pense qu'il faudrait remonter un peu plus loin, mais historiquement, on n'a pas une culture sport formidable de base. Donc, je ne sais pas de quoi ça peut venir vraiment exactement ou quoi. Mais c'est sûr qu'on ne fait rien pour que les gens s'y intéressent. Je pense qu'il a parlé de l'exemple allemand qui remplissait plus les stades et tout, mais après... T'as une certaine identité quand tu regardes l'équipe nationale d'Allemagne. C'est les gens, les Allemands, ils s'y reconnaissent.
Alors, et l'Allemagne, j'apporterai la connotation suivante. Ça peut être une piste. Un match de championnat, un match de journée de championnat est diffusé sur une chaîne publique.
Oui, voilà, par exemple. Après, oui, je pense que ça aide aussi. Ouais, les gens ont besoin de se reconnaître quand ta figure emblématique, c'est. Où ton meilleur joueur du moment, c'est Benzema, bon, bah, il sort d'une affaire plus que douteuse. Quand tu as des joueurs surpayés qui font la grève, c'est-à-dire qu'ils se mettent au même niveau que des gens qui vont se battre pour 100€ de plus par mois alors qu'ils en gagnent 1200, tu ne mérites pas qu'on s'intéresse à toi. Quoi. C'est, si tu fais rien pour gagner de l'attrait ou quoi que ce soit. Donc,
en fait, ce que tu dis, c'est que... Tu penses qu'il y a une... Alors ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une fracture entre... ils ne sont pas dans le même monde que nous. Ça, c'est clair.
Oui, non, ça, clairement. Ouais.
Ça, c'est clair.
Après, c'est peut-être générationnel aussi, quand tu vois les...
L'histoire du PSG est assez révélateur de ça aussi.
Ouais, quand tu vois les joueurs de maintenant, il y a un choc déjà, rien qu'avec notre génération à nous, par exemple. Quand tu vois les minots qui ont 20 ans de moins que nous, donc les Mbappé, Pogba et tout, qui arrivent... pas un sourire devant la caméra avec leur casque. Déjà là, t'as
peu de partage.
Niveau respect. Peu de partage. C'est pas très respectueux, on va dire. Même toi, tu vas pas mettre tes écouteurs quand tu vas être avec tes parents à table, par exemple. Eux, ils passent à la télé. Voilà.
Alors là, pour rebondir là-dessus,
c'est un exemple parmi tant d'autres.
C'est pas qu'au sport, c'est générationnel. Parce que au boulot, moi je sais que je vois des mecs qui viennent au boulot.
Après, c'est de l'ordre de l'éducation, peut-être. On pourrait dire ça.
Ils sont tous avec des écouteurs et tout, alors que voilà, niveau attrait, interaction sociale, voilà, t'en as plus parce que les mecs, ils sont chacun dans leur mandat.
Ils sont pas du tout. C'est pas. Ils ont vraiment l'air à part, quoi. Bon, bref. Et après, j'irai encore aussi un peu plus loin, c'est qu'ils en sont arrivés à un point où moi, j'ai même. Tu parlais des problèmes de remplir les clubs de jeunes, notamment de foot, mais c'est que moi, j'en suis arrivé à un point où je. Pas que je vais diriger mes enfants sur un autre sport, mais dans ma tête, j'espère qu'ils ne fassent pas de foot.
Qu'ils visent ailleurs.
Parce que le problème, c'est que le problème, c'est que c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des exemples. Donc quand tu vois le joueur professionnel emblématique qui fait partie de l'équipe nationale, qui va faire un face contre face avec l'arbitre, ou qui va jeter un poteau de corner, ou qui va. T'as pas envie, et ça se répercute le week-end sur nos petits terrains à nous, où l'arbitre va se faire insulter, où du coup t'as plus d'arbitre, il faut jouer bientôt en DHR pour avoir un arbitre. Enfin, c'est très compliqué, je pense que c'est. Ça, malheureusement, c'est mérité.
C'est vrai.
Ouais, c'est mérité.
Ça, c'est vrai. Mais ça c'était, je pense. Alors, moi, je me suis fait la réflexion suivante, je me dis, est-ce que c'était déjà pas comme ça, nous, quand on y était, mais que ça ne nous choquait pas autant que maintenant ? C'est-à-dire que quand on savait qu'il allait avoir des matchs, alors, je ne vais pas citer les villes et les clubs, hein, là, mais on a eu des fois, on se disait, tiens, on va jouer à tel endroit. Ouah, ça va être chaud, ça va être chiant, ça va être arraché, mais on y allait quand même. Alors qu'aujourd'hui, je pense que si tu prends un gamin d'aujourd'hui et qu'il se met dans les mêmes conditions que nous, est-ce qu'il ira, tu vois, mais nous, est-ce qu'en vieillissant, on se dira pas, on va plus faire chier aller là-bas maintenant, tu vois. Ça sert à quoi que j'aille là-bas pour me faire taper dessus ou autre. Alors qu'avant, c'était, ouais, on va y aller, ça va être chaud, mais on y allait, quoi. Tu vois, il y avait une sorte d'adrénaline qui était là, quoi. Mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Il y a une sorte aussi de vitrine qui est proposée par les acteurs du sport en général qui fait que ça te révulse plus qu'autre chose, quoi. C'est pas faux. Après, on a un traitement... On a un traitement médiatique assez particulier aussi en France.
Oui, on dénigre beaucoup.
Disons que l'exemple de Griezmann, ce qu'il a voulu faire avec Netflix. C'est-à-dire qu'il a fait deux reportages, dont un. Bon. Là, il s'est fait tuer, qui s'appelle La Décision. C'est quand il a décidé de partir. Dans la première année où il doit partir de l'Atlético au Barça, il n'y va pas. Donc, ça a été La Décision. Et après, il en a fait un autre quelques temps plus tard. Où c'est une sorte de lifestyle où tu vois un peu tout et rien. Et il a voulu un peu essayer de faire ce que font, parce qu'il est très passionné de basket, ce que font beaucoup de basketteurs dans leur pays. Mais c'est vrai qu'en France, on a plus tendance à se moquer. On est un peu les fous du roi, si tu veux. Alors que aux États-Unis, les spectateurs, ça va être plutôt les bouffons du roi. Tu vois, c'est une forme d'admiration, voire presque de dévotisme aux sportifs. Alors que chez nous, on a tendance toujours un peu à détruire ce qui est en haut de l'affiche, quoi. À vouloir détruire ce qui est en haut de l'affiche. J'exagère un petit peu quelque part. Ouais. Mais ça, je pense que ça reste culturel, ça aussi.
Après, c'est comme il disait Seb tout à l'heure, quand tu entends l'interview de Franck Ribéry, il peut mettre des triplés.
Oui,
ce qui va
bien,
rester,
mais
c'est les fautes de français niveau CP, quoi.
Tu retiens, c'est décrit après.
Je vais me faire un peu l'avocat du diable. Tu retiens Ribéry parce que ça reste un bon public. Je pense que le journaliste qui voit arriver Ribéry se dit trop bon, je vais passer dans le zapping, quoi. Mais par exemple, tu prends un mec comme Mbappé. Et quand il parle, c'est déjà autre chose, quoi. Il y a une autre réflexion.
Ça coïncide avec le renouveau d'une équipe de France et d'un football qui revient un peu en premier plan. Déjà par les trophées, mais je veux dire, une équipe qui tourne un peu mieux, qui est à nouveau maintenant un peu plus soutenue, on va dire, par le public. Forcément, quand tu as des nouveaux profils qui arrivent, et on va dire, je vais comparer avec la génération 87 qui a eu une mauvaise image avec des Ben Arfa, des Menez, des Nasri. Alors Benzema qui a eu ses histoires, mais qui fait quand même sa carrière.
Ouais.
Donc ouais. C'est autre chose, mais c'est cette période-là où, qui a coïncidé avec l'époque Domenech, l'époque Neisner en Afrique du Sud, et qui fait que donc Deschamps a fait du bien justement en oui. remettant un peu les choses à plat oui. depuis 2014.
Alors, Deschamps par exemple, je pense que c'est un des personnages auxquels les Français sont fiers de s'identifier.
Oui, parce qu'il est français du terroir. Il arrive de la province.
Il a commencé à gagner en France.
Et voilà.
Aussi.
Mais c'est un peu particulier parce que par rapport à la période Benzema, il était justement décrit comme par une certaine partie. On dirait que c'était un raciste parce qu'il ne oui, prenait pas des comme ça. Ouais. Mais
il a prouvé en le faisant revenir qu'il était extrêmement raciste ouais. entre Dédé National.
Après, la génération 98 a amené la culture de la gagne. Ça, c'est indéniable. Ouais. Même si Platini, à l'époque, l'avait un peu... avait un peu entamé le chemin et après ça va pas te plaire non plus, mais l'arrivée de Tapie à l'OM, peu importe ce qu'il a fait ou pas fait, ça on n'est pas là pour débattre de ça, mais il a un peu décomplexé les Français qui étaient toujours des non mais je veux dire, les Français ça a toujours été un peu des polidors. C'est-à-dire et c'était le beau perdant, le beau second, quoi. Le
tu
beau
viens
second.
Des tu viens de parler de... moins même,
non mais genre, tu viens de parler donc de deux trucs. C'est, c'est 93-98 et ça coïncide avec, parce qu'on parle, la France n'a pas trop gagné. Donc depuis 1955, le début des Coupes d'Europe, on a deux victoires en Coupe d'Europe.
Oui, je sais.
93-96, non mais il n'y a pas que ça, parce que ce n'est pas qu'en foot. La première Coupe d'Europe pour un club français.
Non, tu restes focus, attends, tu restes focus foot là.
Non, justement, je vais aller plus loin que le foot. La première victoire donc, pour un club au collectif. 93, c'est pas Marseille, donc c'est Limoges en
oui,
basket.
C'est vrai.
Donc, mais il a fallu attendre 93 pour gagner quelque chose. Après, bon, t'as eu le rugby. Bon, le rugby, c'est un peu plus restreint, parce qu'on va dire c'est les Anglais, les Irlandais et les Français qui gagnent. Ouais. Mais c'est à partir des années 90, il a fallu attendre 40 ans pour qu'on gagne quelque chose. Quoi.
Coupe du monde, Jeux Olympiques de Barcelone, 92. Ouais. Les Français font 3e, je crois.
Au Hand, pardon. Les gars en 95.
Mais je veux dire, cette période-là, je veux dire, à partir des fins des années 80, début des années 90, ça a un peu décomplexé tout le monde. Et à partir de 90, on a eu vraiment des victoires, même en individuel, beaucoup plus significatives que ce qu'on avait avant. Puisque mis à part Noah, regarde, tournoi du Grand Chelem, un Français en 83, s'il te plaît. Et il n'y a pas eu un autre, si, dans les années...
T'as les filles.
Dans les années 20, 30, oui, Marie Pierce, ouais.
Il y a Maurice Mou qui a gagné
Bartoli. Et Bartoli, c'est la dernière dernière athlète française, dernière tennis woman ou man français qui a gagné un tour du Grand Chelem.
Après, Mauresmo, elle a eu le droit de jouer avec les femmes.
C'est dégueulasse.
Demi-victoire.
On veut dire que la France est devenue un pays à la culture de la gagne, parce que beaucoup de, notamment Parker en parle un petit peu.
Oui, non.
Je vous invite d'ailleurs à écouter son podcast, je fais la pub pour d'autres podcasts, c'est pas grave, mais super sur Spotify. Pourtant, je suis pas fan du personnage à la base, mais il fait un super podcast, franchement, il faut savoir le reconnaître. Donc, où il parle vraiment de la culture de la gagne, où ça les a décomplexés.
Culture de la gagne, je ne suis pas totalement d'accord parce que c'est que épisodiquement par certains personnages, tu vois, comme un Teddy Riner ou un Douillet un peu avant, où tu en as quelques-uns qui sortent par-ci, par-là.
Un Fourcade,
j'allais dire.
Tu en as beaucoup sur maintenant beaucoup de disciplines.
Oui, mais j'ai
Tu as Zarco et Cortareo maintenant, voilà. Tu vois, MotoGP. Tu en
as un qui émerge par-ci, par-là. Alors, mis à part des sports qui arrivent à durer un peu, comme le handball par exemple, où il y a une émulation et ça passe, ça revient tout le temps, mais c'est pareil, c'est un sport où au final t'as quasiment que les pays européens qui sont capables de gagner, on va dire. Il y a 2-3 autres qui ont un peu du niveau, mais c'est que ça reste en dessous. Et en fait, après tu prends, donc justement on revient sur l'Allemagne, tu prends les JO, que ce soit d'hiver, les JO d'été, je veux dire, les Allemands dans toutes les disciplines quasiment ils sont capables de gagner des médailles,
les
quoi.
Italiens aussi,
les Italiens non, je suis pas d'accord.
Les Italiens, c'est quand même pas mal. Hein. Tu les prends. Alors, moi, sur les derniers JO, JO d'hiver et d'été, ils ont toujours un flot de médailles. Tu te dis, mais putain, où est-ce qu'ils vont les chercher, quoi.
Surtout, alors tu vois, autant sur les JO d'hiver, bon, la Norvège, tu peux comprendre qu'ils aient un truc, mais bon, ils sont partout. Mais l'Allemagne, qui est à peu près dans le même profil géographique que nous, à quelque chose près, dans toutes les disciplines, tu as un Allemand qui est quasiment capable de gagner. Alors, t'as pas forcément que des phénomènes, mais je dirais, tu sens qu'ils sont présents un peu partout. Et nous, justement, côté français, on a souvent eu, et les clubs français, donc je reviens un peu sur le foot, ce syndrome où tu fais des exploits, puis dans le moment clé, tu t'effondres.
Ça reste de l'ordre de l'exploit, mais pas de la normalité, quoi.
Parce que, bon, on a quand même fait quelques finales malgré tout, mais en général, tu sais, tu es quasiment persuadé que la finale, tu la gagnes pas, quoi. C'est pas Koufoot, hein, ça peut être au JO quand tu regardes d'autres disciplines où tu dis t'es un Français en finale et le Français il s'effondre ou bon, c'est pas ouais. tout le temps le cas.
Après mais... ça c'est peut-être de l'ordre du mental aussi. Hein.
Ah oui,
ça serait peut-être un excellent sujet qu'on pourrait faire aussi.
Mais ça peut rapporter ce truc aussi qu'en France justement on a une culture du sport, de la gagne, du mental ou quoi qui est peut-être pas assez développée ou pas assez efficace.
Après, sur ce point-là, t'as certains joueurs de foot quand ils jouent en France. Qui partent, donc en général ils émergent un peu en France et après ils vont à l'étranger. Là pareil, l'entraînement c'est
pas la même chose.
En France c'est
oula,
c'est...
ça
va nous qu'est-ce que culture de gagne tu veux développer quand tu t'entraînes 2 heures par jour alors que dans les autres pays c'est 6
Ouais, mais c'est surtout une réflexion différente. Il y a des fois des joueurs qui ne se permettraient pas de faire des choses dans des clubs en France. Dans des clubs à l'étranger,
dans un grand club à l'étranger,
dans un club en France.
Mais après, tu veux gagner ta place, donc du coup tu t'impliques dedans. Mais c'est sûr que c'est tout un truc en amont qu'il faudrait chercher.
Nos meilleurs joueurs français, enfin, j'ai entendu parler de Papin qui est resté après les entraînements pour s'améliorer.
Mais t'as beaucoup de footeux, et après on clôturera ce débat là, mais beaucoup de footeux, c'est vrai que quand ils partent à l'étranger. Le dernier exemple en date, c'est Maxime Lopez qui est parti à Sassuolo, pourtant il était à l'OM. Sans vouloir que je tire une balle dans le pied du club que j'aime bien, mais quand il fait une interview qui te dit alors votre pratique du foot ça solo quoi, c'est pas la Juve, c'est pas l'Inter, c'est pas le Milan, il te dit j'ai l'impression que je suis pas le même sport. Ça fait mal. Alors il y a beaucoup d'institutions françaises qui ont du mal à entendre, notamment la 3F, hein, Noël Le Graët, si tu pouvais entendre ça, c'est pas le seul qui le dit quoi. Pourtant il a sa solo, mais le mec qui va à sa solo il dit attendez je fais pas le même sport. Et même Marseille c'est pas 3, sans être dénigré, 3 ou Reims, mais c'est pas 3 ou Reims quoi. Donc t'imagines de dire ça dans un club comme l'OM, franchement ça me fait un peu mal quoi. Pourtant l'OM elle a plutôt une connotation avec beaucoup d'étrangers dans l'encadrement si tu veux, mais il y a encore une culture française qui fait que voilà, c'est un peu...
Après c'est Marseille aussi, Marseille avec le travail
proche de la Corse.
On aura
un petit peu débattu sur ce sujet là on va clôturer ce podcast les amis. En tout cas merci, merci Greg, merci Seb.
On n'a pas répondu au final
à ce podcast. On y a répondu, mais on a échangé nos idées là dessus vous pouvez, je le rappelle, écouter ce podcast sur toutes les plateformes que j'ai énoncées en début de podcast. Donc vous faites juste une petite marche en arrière, ça me fera gagner 2 minutes là sur la fin. J'invite aussi, si vous voulez partager votre pratique du sport, j'en ai pas parlé au début du podcast, vous pouvez le faire en me contactant sur la boîte mail csc04@outlook.fr ou via les réseaux sociaux, ça sera très facile. Sur Culture Sport Club, vous pourrez nous retrouver. Merci encore de votre écoute. À très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Looks like I'ma do everything myself. Some help, but hell, you want something done right, you gotta do it yourself. Maybe life is up and down, but my life's been what till now. I crawled up your butt somehow, and that's when things got turned around. I used to be alive, and now I feel pathetic, and now I get it. What's done is done, you just leave it alone, and don't regret it. Sometimes, some things turn into dumb things, and that's when you put your foot down. Your foot. Somebody like you, why'd you have to go and hurt somebody like me?